Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct et d'interaction avec un trublion dont l'œil tire à balles réelles façon 1, 2, 3 soleil dans Squid Game lorsqu'il pose son regard sur un acteur de l'actualité qui bouge un petit peu trop. Cet humoriste prête sa plume acérée à Nicolas Canteloup depuis plus de 10 ans. Il a coécrit le film Les Infidèles. Il a aussi participé à l'immense succès des Enfoirés. Et depuis quelques mois, cet homme qui est resté bien trop longtemps dans l'ombre a décidé de se réchauffer le teint en débarquant sous le feu des projecteurs. Bonjour Philippe Cadrivière.
Bonjour, ça va
bon, écoutez, j'ai essayé de faire quelque chose de plutôt bien écrit quand
c'était
on a un
bien
auteur.
Écrit.
Bon, c'est gentil.
Il y avait des vannes,
vous me donnerez une note à la fin de l'interview alors. L'œil de Philippe Cadrivière, donc c'est la chronique que vous incarnez chaque matin dans la matinale d'RTL à 7h56. C'est précis. Hein. C'est un petit bonbon que l'on consomme vraiment sans modération dans lequel vous posez votre regard sur l'actualité. Je vais vous poser la question après, promis, on n'en parle plus. Est-ce que vous avez un lien de parenté avec David Guetta? Promis.
Alors, souvent
parce que
franchement, on me
dit. La ressemblance, elle est frappante.
Non, mais souvent, on me le dit. Et le pire, c'est quand je vais dans un hôtel, des fois, à Las Vegas, où il est.
C'est pas
vrai. Où il mixe, le Win. Donc, je suis à la piscine, les filles arrivent, elles me disent « Are you David Guetta ?» Donc moi, je leur dis « Non, je suis pas David Guetta. » Donc, et mes potes, quand elles repartent, ils vont voir les filles sur le transat, ils disent « C'est David Guetta, mais il veut être peinard. » Donc après, j'ai tout le monde qui revient. Mais c'est
et vous avez la suite, du coup,
bah
du
oui.
Palace
j'ai toujours la chambre sur plein nord.
Mais c'est le moment de dire oui, vous auriez la chambre gratos. Mais vous l'avez déjà croisé, David Guetta? Il
non,
sait que vous existez.
Jamais, non, je pense pas.
Peut-être que David Guetta, on dit, mais vous ne seriez pas Philippe Cadrivière.
Bah, s'il ne veut pas mixer, je peux le remplacer, tu vois. Si on fait 50-50 sur le cachet.
Dans un biopic, vous seriez parfait.
Peut-être.
Doublure de David Guetta.
Il y a un truc. Si je mets un casque comme ça.
En tout cas, voilà, votre actualité à vous, c'est bien l'œil de Philippe Cadrivière chaque matin. Sur RTL. Ouais. L'idée de cette chronique, c'est quoi? C'est de balancer un peu toutes les horreurs qui vous passent par la tête en 4 minutes, c'est ça un petit peu l'idée?
C'est essayer, l'actu est tellement sombre, tellement noir, tellement difficile, de la prendre cette actu et d'en faire quelque chose de souriant. Ouais. On tente.
Vous essayez d'en rire. C'est facile ou pas tous les matins de rire avec l'actualité? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de choses assez dures. Quoi, hein.
Non, mais j'ai un camarade auteur tous les jours différent. J'écris pour Nicolas et sur RTL, j'ai toujours un camarade d'auteur tous les jours qui écrit avec moi, Clément Charton, Jonas, Evin, Arnaud Tarid, Arnaud Demanche, un par jour, et on bosse tous les deux, et on a besoin de ce ping-pong-là pour essayer de surprendre les auditeurs et de faire un truc souriant, de tenter, on essaye.
Bon, en tout cas, c'est réussi, je vous assure. On va en parler dans quelques instants. Je rappelle que nous sommes en direct avec Philippe Cadrivière sur Figaro Live, sur lefigaro.fr et la page YouTube de TV Magazine. Vous pouvez lui poser toutes vos questions. Est-ce que vous êtes de fidèles auditeurs de la matinale d'RTL? Est-ce que vous l'écoutez chaque matin? Est-ce que vous le regardez également à la télévision dans On est en direct chaque samedi en deuxième partie de soirée sur France 2? N'hésitez pas, toutes vos questions. On y revient juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Salut Sarah.
Salut Damien, rebonjour Philippe.
Sarah. Eh ben Sarah, c'est parti avec les audiences.
Ça y est, c'est parti. Hier soir, c'est TF1 qui s'est imposé dans le classement médiamétrie des audiences grâce à la suite de la saison All-Star de Koh-Lanta. 4 200 000 fidèles comptabilisés et 22,1% du public. C'est à peu près le même score atteint la semaine dernière. C'était encore pendant les vacances scolaires, donc c'est pour ça que TF1 a repris des couleurs. Et alors France 2 est deuxième avec Nos Terres Inconnues qui faisait son grand retour. Raphaël de Casabianca a invité cette fois Amir dans le Jura. Et bien 3 200 000 curieux étaient réunis, ce qui représente 15% du public. Et M6 est enfin sur la troisième marche du podium grâce au film d'animation La Reine des Neiges. 1 700 000 cinéphiles et 8% de parts de marché. Et enfin, Patrick Chesnais s'inquiétait hier sur notre plateau du Buzz TV sur son score demain du téléfilm Laval, le collaborateur. Eh bien, c'est un peu décevant, un peu faible. Seulement 1 700 000 personnes et 7% de parts de marché.
Ouais, il faut dire que la concurrence était assez rude hier, malheureusement. Vous regardez quoi, vous, à la télévision, Philippe?
Moi, j'écrivais hier soir. J'écrivais ma chronique.
Ah, vous écrivez?
Ben oui, c'est tout le temps.
Vous n'avez jamais le temps de regarder la télévision? Vous n'êtes pas un téléspectateur?
J'essaie. Je regarde un peu tout. Je me balade partout. Ouais.
Vous regardez un petit peu la télé-réalité. Quand j'écoute vos chroniques le matin sur RTL, je vois que de temps en temps, vous faites un petit clin d'œil à la télé-réalité. C'est rarement pour en dire du bien, il faut reconnaître.
C'est un peu un angle facile, mais c'est vrai qu'ils sont drôles naturellement. C'est des humoristes naturels.
Oui, c'est vrai, effectivement. Allez, on va poursuivre avec tout autre chose. La télévision, justement, Thierry Beccaro, l'ancien animateur de Motus, qui se confie sur son passé d'enfant battu.
Oui, vous le savez, il y a 3 ans, donc, l'ancien animateur de Motus dévoilait son passé d'enfant battu dans un livre appelé « Je suis né à 17 ans ». Eh bien, aujourd'hui, il continue son récit dans un nouvel ouvrage qui s'appelle « Ma résilience à moi » et qui sort demain. Et à cette occasion, il se confie à nos confrères du Parisien et raconte qu'il a compté sur des tranquillisants pour s'en sortir. « J'ai été sauvé par les médicaments qui permettaient de s'évader, de s'oublier », assure-t-il, « même si cela isole, même si cela augmente le manque de confiance en soi », a-t-il ajouté. Alors aujourd'hui encore, il prévient qu'il prend toujours des anxiolytiques et des somnifères.
Alors vous, Philippe, vous êtes un homme engagé.
Vous droguez. Je finis la transition. Vous,
alors ça, ce sera la question, mais qui arrivera un peu plus tard dans l'interview, lorsque vous serez en confiance sur ce plateau. On attendrit la viande avant de... Ouais. vous êtes un homme engagé. Alors, vous êtes parrain de l'association Léo, dont le but est de financer la recherche et la lutte contre les cancers pédiatriques. Dans quelle mesure vous êtes investi dans cette association-là?
C'est une vraie rencontre. J'essaye de faire le lien entre des enfants et des stars qu'ils aimeraient rencontrer, de passer des moments avec eux, de faire des appels aux dons. Voilà, donc vous pouvez aller sur le Facebook de l'association, ou sur l'Instagram. C'est une petite association à taille humaine, elle a Fréjus, Saint-Raphaël. C'est 4 femmes puissantes, la maman du petit Léo qui est disparu en 2017 et les 3 meilleures amies. Et c'est vraiment des femmes qui sont investies au quotidien, que j'admire, et qui sont en contact avec les autres mamans, avec les enfants malades, avec cette détresse, avec ces parents qui s'arrêtent de travailler quand un enfant est malade, un des parents s'arrête, donc il y a un problème économique au-delà du malheur. Et j'adore cette association parce qu'elle me fait beaucoup de bien, autant que j'essaye de lui en faire.
Et vous en parlez d'ailleurs régulièrement dans vos chroniques, même parfois, je vous ai vu aussi sur France 2, aux côtés de Laurent Ruquier, vous en avez parlé, ça vous tient vraiment à cœur cette...
Oui, et c'est un moment émouvant parce qu'il y a un petit qui est parti, un petit Luciano, un adolescent mexicain, franco-mexicain que j'adorais et qui est toujours très présent dans nos cœurs maintenant, et qui a été exemplaire. Les gamins, c'est une grande leçon. Et puis c'est une caméra embarquée dans le monde des infirmières, qui sont extraordinaires au quotidien. Ça me remet les yeux en face des trous. C'est pour ça que je dis aussi peut-être des horreurs sur toute l'actu, parce que mon point, comment dire, le point de ma construction, ce qui est essentiel dans mon histoire, c'est ces cancers pédiatriques. Oui. Rien n'est grave à côté du cancer pédiatrique. Donc je peux rire de plein de choses, parce que ça, c'est grave. Le reste, ça passe.
Et vous le faites à merveille dans l'œil de Philippe Cavrivière. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. La chronique que vous proposez chaque jour à 7h56, notez-le, c'est dans la matinale d'RTL, ça s'appelle « L'œil de Philippe Cavrivière ». Vous y commentez l'actualité avec un humour très grinçant, il faut le dire. En quoi elle consiste, cette chronique, concrètement ?
Alors, c'est un petit peu une revue d'actu et de presse. Et juste après, l'invité politique d'Alba Ventura. Ouais. Donc, il y a l'interview avec François Hollande, avec Gérard Darmanin, avec Jean Castex. Et moi, je passe après, on tente de faire rester l'invité. Et je dis un petit mot à l'invité. Et puis, je le taquine. C'est de l'escrime un peu.
On tente parce que ce n'est pas toujours évident. Il veut partir.
En général, il reste. Et il reste. Pour le meilleur ou pour le pire. Alors, ça dépend. J'ai des invités qui se sont royalement emmerdés.
Qui ça?
Je ne vais pas dire de nom. Christiane Taubira.
Mais est-ce qu'il y en a qui l'ont mal pris?
Christiane Taubira.
Elle s'est emmerdée. Alors, j'aurais aimé la faire rire parce que c'est quelqu'un d'intellectuellement admirable. Je pense qu'elle s'est emmerdée. Éric Dupond-Moretti, il avait du boulot. Et, alors, moi, je faisais ma chronique, il était là dans ses notes d'après. Mais à un moment donné, il s'est réveillé, il a rigolé. Et François Hollande a été très, très bon. Il a rebondi, machin, parce qu'il est humoriste aussi.
autant que président,
mais il a été très, très sympa, beaucoup d'autodérision.
C'est intimidant parfois de faire une chronique devant un ancien président de la République,
carrément,
par exemple.
Bien sûr, parce que je me rappelle mon parcours scolaire et le sien, et je me dis, qu'est-ce que tu fous à donner ton avis à un ancien président? Bien sûr que j'ai mon cerveau qui se dit, qu'est-ce que tu fous là avec c'est un ministre, machin.
Mais ça arrive que des invités le prennent mal. On l'a vu dans d'autres médias avec vous, je n'ai pas forcément ce souvenir. Mais est-ce que c'est arrivé qu'après coup, un invité vienne vous voir en coulisses en vous disant « Là, Philippe, t'es allé beaucoup trop loin
» Non, en plateau, chez Ruquier. Je faisais ma chronique et des fois, je fais des vannes que j'ai fait à RTL et je les refais chez Ruquier. Elles marchent à RTL et je les fais chez Laurent Ruquier. Et là, j'ai 4 invités qui... qui me regardent comme ça, qui sont... Et je vois dans leur œil hein, qu'ils se disent « c'est qui ce con ?» je sais décrypter. Et ils s'emmerdent. Et donc, et Jeanne Chéral, la chanteuse, était là, oui. je fais exprès une vanne ultra nulle sur Jeanne Chéral, une vanne honteuse, parce que c'est... Elle est là, elle fait...
Ah mais oui, vous avez raison, je me souviens parfaitement. Wow. Vous faites le parallèle entre son nom et la viande Charal.
C'était nul, ça. C'est fait exprès.
Non, moi, j'ai pas trouvé ça nul, sincèrement.
Le but,
j'ai trouvé ça drôle.
De faire la vanne la plus honteuse du monde sur son nom, et elle le prend pas. Elle, me, dit, elle me regarde, elle me fait... Qu'est-ce que c'est nul, j'ai envie de me barrer.
Mais en live.
En direct. Et là, je me dis, qu'est-ce que tu fous là en plateau à prendre une honte. Mais bon... C'est comme ça, le moment de solitude.
En même temps, vous avez un rythme qui est extrêmement soutenu. Le matin, c'est vrai que sur RTL, par exemple, vous devez vraiment livrer une chronique quotidienne. Comment vous faites pour tenir cette cadence infernale? Il faut être inspiré à chaque instant.
Déjà, j'ai mes camarades d'auteurs qui ont beaucoup de talent et avec qui on rebondit et on essaye tous les jours de fournir quelque chose de nouveau. Là, par exemple, demain n'est pas écrit et c'est bien comme ça. Il faut que ce soit frais, c'est du produit frais, quoi.
Mais comment on fait pour savoir si une chronique est drôle? Parce que quand on est dans sa bulle, entre guillemets, c'est hyper compliqué. Moi, je vais faire une blague le matin, par exemple, à quelqu'un de ma famille qui va rigoler. Je vais la faire à Sarah derrière, qui va trouver ça extrêmement nul.
Le pire de tout ça, c'est que même les gars, les humoristes qui disent, qui font le même spectacle, un soir, ça marche. Un autre soir, avec le même gars et le même texte, ça ne marche pas. Mais moi, c'est du best jump. Je ne connais pas le texte. J'y vais.
C'est pas une science exacte.
Je me lance et j'en sais rien. J'espère que c'est marrant. Mais après, il y a tous les avis derrière.
Bien sûr.
Des fois, c'est pathétique. Et sur la même vanne, il y a des gens qui vont dire « Mais qu'est-ce que c'est nul, dégage !» Et il y en a d'autres qui vont dire « C'était marrant !»
Justement, on va en parler dans quelques instants des commentaires. Mais d'abord, on va aller faire un tour du côté de YouTube.
Oui, parce que nous sommes en direct sur lefigaro.fr et sur YouTube. Et j'ai cette première question de Rico. Et bonjour, est-ce que Laurent Ruquier vous bride un peu dans... On est en direct.
Ah oui, c'est une bonne question, ça.
C'est bravo, Rico. Bah, il est meilleur que Sarah et Damien.
C'est sympa, on le dira. Merci, Rico.
Alors non, heureusement, parce qu'il aime trop les auteurs et il connaît trop ce métier pour ne pas savoir qu'il faut une liberté totale, que ce soit en radio ou en télé. Et Yves Calvi, de la même façon, ne lit que les questions, il ne lit pas les réponses pour être totalement dans une réaction sincère.
Qui découvre
sincère.
À chaque fois.
Ouais.
Vous n'avez pas de garde-fou, que ce soit sur RTL ou sur France 2, à aucun moment on relit vos chroniques avant que vous entriez.
Le mal est fait, c'est lancé, c'est trop tard. C'est bien, cette liberté, elle est essentielle.
Alors ce matin, justement, vous vous êtes moqué de Stephen Hawking, le célèbre le célèbre physicien qui souffrait, on le sait, de la maladie de Charcot. Vous avez aussi affirmé, attention, que grâce à l'assèchement des cours d'eau en 2021, le petit Grégory aurait eu pied. Moi, j'ai rigolé, sincèrement, j'ai rigolé. Est-ce que vous ne vous dites pas parfois, vous allez un peu loin quand même?
C'est Yann Kelevitch qui disait que le second degré, c'est un bâton tendu à l'intelligence.
Oui, c'est vrai.
Donc, c'est exactement ça. Et après, on fait le tri. Il y a des gens qui disent « c'est du second degré ». Ouais. Et bien sûr, c'est pas drôle, la mort d'un enfant. C'est ce qui me déchire le plus. Mais c'est une façon de passer au-dessus du malheur, d'essayer de rire de la maladie, etc. Et moi, je fais plein de vannes sur les handicapés parce que j'ai vu en commentaire « il est nul, il se moque des handicapés et des faibles ». Dès qu'il y a des handisports, j'en parle parce que c'est des sportifs à part entière pour moi, et comme Philippe Croizon, j'ai une admiration folle pour ce monsieur qui a un humour dingue.
Et qui, d'ailleurs, a beaucoup d'autodérision, c'est eux qui se moquent le plus d'eux-mêmes.
Oui, je le salue, d'ailleurs, et son Charlotte Desnaux, qui est une comédienne qui fait plein de sketchs très, très drôles avec lui. Il a une autodérision folle, et il faut en parler. Quand ils font un truc de sport et tout, bien sûr qu'il faut parler, et bien sûr qu'il faut se moquer, entre guillemets, pas d'eux, mais de la performance ou de la non-performance, comme d'un sportif à part entière. Parlons-en, au contraire.
Alors justement, l'humour, c'est une matière très périlleuse, qui plus est lorsque vous la maniez en direct. Vous ne pouvez absolument rien supprimer au montage. On sait qu'à la moindre blague mal interprétée, vous pouvez provoquer une polémique. Quelles sont les limites que vous vous fixez? Est-ce que vous vous en fixez d'ailleurs, des limites?
La limite, c'est que ça me fasse rire. Et pour ça, j'avais fait d'ailleurs une vanne... Je fais une vanne sur le cancer en le comparant au Covid, en disant que le Covid s'est renouvelé parce qu'il y avait eu le Covid new-yorkais, le Covid brésilien, et que le cancer était un peu resté sur ses acquis. S'il y avait eu un cancer brésilien avec une petite chimiothérapie avec de la caipi dedans, ça aurait été sympa. Et j'envoie une musique de samba derrière. En parlant du cancer, sachant que j'ai perdu une sœur et une maman du cancer.
Bien sûr, oui.
Donc je m'autorise ça. Je reçois dans les messages... une dame qui m'envoie « Vous avez fait une vanne sur le cancer ». Je me dis « Oh putain, elle va m'engueuler ». Et elle me dit « Merci à vous, c'est très bien de rire de tout, vous m'avez fait du bien ». Donc là, derrière, vous pouvez me balancer 300 insultes. J'ai ce message-là de cette dame qui est dans la tempête et qui m'envoie ça. Donc, toutes les messages d'insultes, j'en ai plus rien à foutre, pardonnez-moi, mais parce que cette dame, elle a compris. Et qu'elle a compris qu'on parlait d'elle, de son combat, et autrement.
Mais votre raisonnement est très certainement louable et c'est sans doute le meilleur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que les réseaux sociaux peuvent vous coûter votre carrière parce que les décideurs regardent les réseaux sociaux. Votre patron, RTL, il regarde les réseaux sociaux. Est-ce que Twitter a rendu votre métier plus difficile?
Je pense que oui, parce qu'on n'est pas, habitué à ça. Hein. Ouais. Moi, j'ai eu des menaces de mort, etc., sur des vannes. Et je me suis retrouvé au commissariat à déposer plainte parce que j'avais fait des vannes sur les Portugais.
Ah oui.
Et donc, je me retrouve avec un policier qui prend ma déposition. Donc, il dit qu'il me tape. Donc, M. Pereira a menacé de sodomiser vos chats et de vous tuer à cause d'une blague sur le gel des cheveux des Portugais. Et là, vous dites, je suis dans un commissariat avec un monsieur qui prend ma déposition à cause d'une vanne. Donc là, on dit le monde est fou. D'avoir cette violence, elle est là, elle existe, elle remonte juste maintenant avec les réseaux sociaux. Mais après, il y a le meilleur aussi dans les réseaux sociaux. Il y a de la solidarité, il y a de l'intelligence parfois, il y a un lien qui se fait. Mais il y a le plus mauvais aussi qui arrive. Ça, je n'étais pas préparé.
Ça vous arrive souvent d'avoir des menaces de mort ?
Non, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé l'année dernière, ou des insultes très souvent. Mais on mesure pas ça.
Mais vous les anticipez ? Est-ce qu'il y a des communautés, par exemple, où vous savez que si vous vous y attaquez, vous allez derrière recevoir un flot d'insultes ? Est-ce que vous arrivez à...
C'est vraiment sous-estimer les gens de se dire « je vais pas y aller parce qu'ils n'ont aucun humour ». C'est le cas du Maghreb, etc. Moi, je sais que j'ai tous mes copains qui m'envoient des textos quand j'ai Marine Le Pen et je fais des vannes sur le Maghreb, sur les musulmans, mais parce qu'ils ont de l'humour. Et c'est de dire... Non, je ne fais pas de vannes parce qu'ils ne vont pas comprendre, ils vont me menacer. Je fais des vannes sur tout. Et après, les gens viennent me parler. J'ai des messages d'Algérie, de Tunisie, de la communauté juive, de tout le monde. Et je me dis, peut-être si j'ai des messages de partout, c'est que on fait pas si mal notre boulot, finalement.
Parce que vous tapez effectivement sur tout le monde. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, on va en parler dans quelques instants. Sarah, les internautes.
Oui, et on a un fan sur la page, il s'appelle Alexandre. Chapeau pour vos deux chroniques sur RTL et France 2, vous avez énormément de talent, on se régale tous les matins et chaque samedi soir. Voilà, c'est signé Alexandre.
Merci.
Alexandre qui pose aussi une question. Est-ce que ça vous manque de ne plus travailler pour la chronique de Nicolas Canteloup sur Europe 1 ?
Ben, on s'amusait bien, oui Alexandre, on s'amusait bien tous les matins. 15 ans, et puis ça s'est arrêté... au mois de juillet.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Enfin, ça a été une surprise pour vous ?
Une surprise de mois de juillet. Donc, j'avais pris une glace de boule, je l'ai rendue, j'ai plus les sous pour... et j'ai annulé, mais je suis rentré chez moi. Bon, on a pris la cava, Raman, on est rentré. C'est comme ça. Je sentais un petit peu arrivé parce qu'il y avait eu 2-3 départs avant nous, je crois.
Oui, effectivement, avant Nicolas.
Vous vous étiez autorisé quelques plaisanteries sur Vincent Bolloré et tout ça.
Parce qu'on doit rire de tout, bien sûr.
Ouais, et vous ne les regrettez pas.
Du tout. Non. Ouais. C'était collectif, c'était marrant et on a toujours ri de tout sur Europe 1, de tous nos patrons.
Mais c'est une histoire d'amour qui s'arrête un peu ? C'est le sentiment que vous aviez eu quand vous avez dû un peu accrocher les gants ?
Ouais, c'est le mercato. Puis après, je suis parti sur RTL qui me voulait plus et qui m'aimait bien. Et je découvre une équipe que j'aime beaucoup sur RTL. Je suis venu grâce à Thomas Soto, qui est un ami et que j'admire.
Oui, parce que vous étiez dans RTL Soir la saison dernière.
C'est lui qui m'a fait venir et c'est Philippe Geluck qui m'a fait aller chez Laurent Ruquier.
Chez Laurent Ruquier.
Qui a dit à Laurent, écoute Philippe Cavrivière. Et voilà. Donc je remercie Thomas Soto et Philippe Geluck.
Alors, dans la matinale de RTL, cette saison, on voit un peu double. Parce que l'année dernière, on n'avait que Laurent Gérard en humoriste. Et maintenant, on a avec Laurent Gérard Philippe Cavrivière. De quel œil il a vu votre arrivée, Laurent
Gérard ? Je n'ai pas le talent de l'imitation. Je fais des mauvaises imitations.
D'ailleurs, on me demandait sur la page si vous saviez imiter. Mais non.
Alors, il faut écouter. Si. Des fois, je fais des mauvaises imitations.
Vous imitez quelques-unes. Vous imitez Laurent Ruquier un peu.
J'imite un peu Laurent Ruquier. L'autre jour, je l'ai fait en direct. Alors, Philippe Cavrivière, comme ça.
Il l'a très mal pris.
Il m'a regardé, il me dit, vous m'imitez, tu ne parles pas du tout comme ça. Bah si, un peu quand même.
Vous avez imité Jean-Marie Le Pen face à Marine Le Pen, qui était plutôt audacieux.
Oh putain,
Là, ça a jeté un petit froid quand même.
Un petit froid, il y avait une ambiance. J'avais mon chat, etc., pour essayer de créer le lien.
Est-ce que ça a marché, ce lien, ce jour-là?
Je crois qu'il faut dialoguer, c'est toujours intéressant.
Vous avez raison.
On ne peut pas dire ne pas dialoguer. Dire, on ne parle pas avec... C'est le RN... On n'est pas du même avis, bien sûr, mais bien sûr on dialogue.
Est-ce que vous vous concertez avec Laurent Gérard le matin ? Parce que certes, vous n'êtes pas un imitateur, lui c'en est un, mais vous avez ce point commun de l'actualité qui fait que vous pouvez vous marcher sur les pieds à un moment donné. Est-ce que
je l'écoute avec bonheur après, à chaque coup, quand je repars de RTL, parce que je suis très client de lui et de ses auteurs. Mais non, non, on ne se concerte pas. Ouais. On espère qu'on ne fait pas les mêmes choses. Et puis voilà, mais non, mais c'est très différent ce qu'il fait.
Bien sûr.
Il, c'est très bien écrit. Et...
Alors, votre principal concurrent, c'est France Inter, qui comporte également des billets d'humeur hein, sur son antenne, notamment portés par Guillaume Meurice et Charline ouais. Vandenhoecker, qui sont deux humoristes parfois qualifiés par les réseaux sociaux, notamment, on en parlait, de donneurs de leçons, de militants de gauche parfois aussi. Est-ce que vous comprenez ces critiques ?
Moi, je les écoute. Et j'écoute Émeric Lomprey, j'écoute Guillermo Guise. Ils ont une super équipe. Hein.
Ouais.
C'est le PSG de la vanne, hein, mais ils ont les salaires de Sochaux sur France Inter. Donc, je vais rester sur RTL. Et, non, non, mais ils ont beaucoup de talent, c'est bien écrit. Après, ouais. peut-être qu'il y a un systématisme, peut-être ouais. qu'ils sont moins durs avec la gauche. Ouais.
Avec la droite ?
Avec la droite, avec la gauche.
Avec
ils sont
la gauche.
Moins durs avec
ah,
la
oui,
gauche.
D'accord, oui, oui.
Eux, ils sont
ouais.
moins durs avec la gauche, peut-être.
Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr.
Mais je les écoute avec bonheur. Peut-être, ouais, il y a peut-être... Moi, je ne sais pas d'où je suis politiquement encore. Donc,
ouais. C'est vrai
donc
que vous, vous tapez vraiment sur la droite, sur la gauche, vous tapez vraiment sur tout le monde.
Ouais,
vous
ne situez ouais.
pas.
Ouais, non. Absolument pas.
C'est vrai que c'est impossible de savoir pour qui vous votez, alors qu'effectivement, peut-être que les humoristes de France Inter, on a une petite idée.
Une vague idée.
Ouais, une vague ouais. idée, effectivement. Alors, vous en avez vaguement parlé tout à l'heure, on vous retrouve à la télévision. Non, on n'est pas, pas couché. On est en direct, sur France 2, deuxième partie de soirée. Votre chronique, ça s'intitule « La semaine de Philippe Cavrivière
ouais. ».
Est-ce que ce rendez-vous, c'est la déclinaison télé, ni plus ni moins, que de ce que vous faites le matin
Est-ce sur que je revends les mêmes vannes
Est-ce
à
que vous revendez Est-ce qu'en gros, ce qu'on écoute sur RTL,
est-ce
on le voit
Est-ce que Ruquier achète les mêmes vannes Eh ben ouais, parfois. Oui, parfois, parce que justement, ce qu'on disait juste avant, ouais. on teste les vannes. Et ce qui parfois ne sert à rien, parce qu'une vanne peut faire rire le mardi ou le mercredi ou le jeudi en radio, et avec une qualité d'écoute qui est moins bonne en télé, ouais. peut entraîner la consternation de toute la table qui ne va pas comprendre ouais. ou qui ne sera pas branchée actu. Sur RTL, je suis dans un studio où tout le monde est branché actu. Ouais. Donc, ils comprennent le moindre sous-entendu quand il y a Castex à Hollande, ils comprennent un petit peu la vie politique. Donc ils saisissent la moindre nuance.
Avant,
télé,
avant juste de retourner du côté des internautes, c'est vrai que Laurent Ruquier, c'est aussi un peu le dénominateur commun, c'est RTL.
Ouais.
Il est l'animateur des grosses têtes. Quand on est face à vous, on a envie de vous poser la question. À quand Philippe Cavrivière dans les grosses têtes ?
Mais putain, personne n'y pense. Hein. Il y a plein de gens.
Mais
qui...
si, on y
et
pense.
Si on me pose c'est la question, d'ailleurs, sur le chat, c'était ma prochaine question, mais ouais. on va en trouver une autre. Mais
Non, mais bah, Laurent, il m'a jamais demandé. Laurent,
il vous a okay. jamais demandé ?
Rien, que dalle.
Mais vous, ça vous botterait d'y aller ?
Bah, c'est une émission mythique, donc ouais, il faudrait la faire au moins une fois, non ?
Bah, franchement, pour un humoriste comme vous, ce serait l'idéal. En plus, vous avez le sens de la répartie, vous êtes drôle, donc pourquoi c'est, pas ?
Des fois, parfois, ça m'arrive d'être marrant. Ouais, bah, j'aimerais bien.
Vous êtes candidat, là. C'est une
Allez,
candidate,
je vais laisser un CV, je vais envoyer.
Vous allez laisser un CV. Bah, franchement, il faut lui en parler, c'est pas possible.
Ouais, c'est fou, c'est fou. Merci mais, de
bah, on
de
essaye de vous pousser.
Ma carrière,
mais bien
c'est
sûr.
Gentil.
Bon, vous avez un emploi du temps bien chargé, ceci dit, mais...
Ah non, j'ai rien à foutre, je suis là, regardez.
Mais d'ailleurs... Une corde qui manque à votre arc aussi, c'est le one-man show. On se dit, pourquoi pas Philippe Cavrivière, sur scène. C'est possible, ça
c'est une envie. J'ai deux, trois camarades qui m'en ont parlé.
Ouais.
Quand je vois des très talentueux sur scène, je me dis, n'y va pas. C'est vraiment un autre métier. Et quand je vois un mauvais, je me dis, ah, finalement, tu ne serais pas pire.
Bah
donc,
ouais.
Parfois, je me dis non, et parfois, je me dis oui.
Si vous prêtez votre plume à Nicolas Canteloup dans C'est Canteloup, notamment le soir sur TF1, une émission produite par Jean-Marc Dumonté, qui est propriétaire de théâtre, on se dit, bon, voilà, vous avez le contact.
Bah ouais, c'est vrai.
Après tout.
Maintenant que vous me le dites.
Vous lui en avez déjà parlé ?
Non, on en a parlé comme ça, à ouais. demi-mot. À demi-mot.
Bon,
vous aurez le scoop.
J'espère.
Je viendrai le dire ici.
En tout cas, vous serez le bienvenu. Sarah, une dernière question, du coup ?
Une dernière question d'Aline. Pourquoi êtes-vous restée si longtemps dans l'ombre ? C'est vrai que là, vous avez pris la lumière d'un seul
Parce
coup.
Parce que
quoi,
je voulais pas y aller. Je voulais pas y aller.
Ah, vous vouliez pas ?
Non. J'ai fait un spectacle pour mon association il y a 3 ans à Saint-Raphaël, ma petite ville, et il y avait 1000 personnes. Et j'ai présenté le spectacle avec un camarade. Et il y avait Thomas Soto, Michel Rucker, Florent Père, Nicolas Canteloup. Et on fait 3 heures de spectacle et je suis au micro. Bon, le thème n'est pas le plus marrant, les cancers pédiatriques.
Ouais.
Et moi, j'essaye de faire des vannes. Et à l'issue du spectacle, Thomas Soto me dit « Mais t'es pas nul au micro ?» Je dis « C'est gentil. » Et il me dit « Viens, rejoins-moi sur RTL. » Et je me suis dit « Bon, je n'ose pas dire non à un mec qui vient de me rendre service. Thomas Soto était venu co-animer le spectacle à Saint-Raphaël, assez frais, machin, il a passé du temps avec les gens, il est extraordinaire, humainement. Autant professionnellement, il est très mauvais, mais autant.
J'allais vous dire, humainement, il est génial. Bah alors, par contre, le talent. Ah,
très bien. Et il me dit, viens. Donc, je dis, bon, je vais y aller. Ils vont me virer au bout de 3 chroniques. Et puis, j'aurais pas dit non à mon pote. Et voilà. Et du coup, ils m'ont gardé. Et c'est vraiment le hasard. Et après, Philippe Geluck m'a entendu sur RTL, a dit à Laurent, dis-lui de Laurent, écoute-le, peut-être qu'il serait bien en télé. Et donc, je n'ai aucune... je suis velléitaire, moi, j'ai aucune ambition. Je vais où le vent me pousse, et il m'a poussé sur RTL et sur France 2. Donc, j'y vais par défi après, et voilà pourquoi je suis là. Eh ben, grâce à l'association.
Grâce à l'association Léo. Ben, vous êtes là, Philippe, et vous allez rester encore un peu avec nous, parce avec qu'on plaisir. A une dernière rubrique qui s'appelle En toute franchise. On va vous passer sur le grill.
Oula.
Alors, c'est notre nouvelle rubrique, notre petite torture de fin, on va dire. On vous pose une série
c'était
de questions.
Bien, c'était bien
vous n'avez pas le choix. Bon, vous avez répondu avec franchise jusque-là, mais là, encore avec plus de franchise, d'accord ?
Allez, bon.
Quel est le plus beau souvenir de votre carrière ?
Ah ben, je crois que c'est le spectacle. Personne, c'est en DVD, le spectacle pour l'association. C'est la plus grande émotion.
Ouais.
De 1000 personnes et voilà, la mémoire de Léo et avec plein d'enfants, etc., plein de parents. Ouais, sans hésiter.
Réunis pour la bonne cause.
Ouais.
Et le pire souvenir maintenant ?
Ah, j'en ai plein.
Il faut en retenir qu'un.
Christiane Taubira, Jeanne Chéral. Non. Mais quand vous, des gens que vous ne pouvez pas en vouloir, en plus, c'est des gens que j'admire intellectuellement et qui s'emmerdent en vous écoutant. Ils disent, oh là là, c'est bientôt fini. Et c'est douloureux pour moi. Peut-être les gens s'emmerdent là en me regardant, je ne sais pas.
Non.
Alors, voilà, mais c'est anecdotique, hein, ça passe.
Est-ce que vous avez une manie ou un toc avant d'entrer en plateau ou dans un studio ?
J'en ai 4000.
4000,
parce que je suis stressé. J'ai mes bracelets, j'ai machin.
Vous en avez beaucoup, des bracelets ?
Je suis plein de superstitions avant, parce que j'ai peur.
Mais alors, ils représentent quelles superstitions, vos bracelets, dites-moi ?
Non, mais ça me rassure, hein, c'est un toc, ça n'a rien de rassurant.
Il faut que vous en ayez 12 sur le poignet droit.
Mais si jamais je fais un vide avec la chronique, je jette le bracelet et tout. Non, mais c'est offert, c'est des bonnes vibrations, mais... Bien sûr que c'est la télé en direct, ça fait peur.
Bien sûr.
Si vous n'aviez pas été humoriste ou auteur, quel métier auriez-vous exercé ?
J'étais au Club Med, je pense que je serais resté au Club Med.
Géo
Club Méditerranée, ouais.
Je
suis resté à ce niveau-là, moi. c'est mon ambition dans la vie, de rendre heureux les gens. C'est le même métier, en fait.
Mais vous aimeriez pas animer une émission de divertissement pur et dur, parce qu'aujourd'hui on vous voit effectivement dans un registre plus chronique. Est-ce que une émission de divertissement à la télévision, ça vous plairait ?
Vous me trouvez du boulot dans les hauts grosses têtes, dans le divertissement. Non, moi,
demandez-nous,
on
va vous remplir votre
ouvert. Je n'ai aucune idée, aucune ambition. Après, quand on vient vers moi et qu'on me dit, tiens, j'ai un côté t'es pas cap, donc j'y vais souvent.
Vous prenez effectivement les projets quand ils se présentent.
Ouais.
L'élection présidentielle, vous le savez, se tient dans quelques mois. Admettons, vous, Philippe Cavrivière, vous arrivez à la tête de l'Élysée. Vous êtes le nouveau chef de l'État. Quelle est la mesure que vous prenez en premier lorsque vous arrivez à la tête du pays ?
Ça, c'est une bonne question. Putain de bonne question. Non, parce que tout le monde dit on va libéraliser le cannabis.
Oui.
Je serais plus pour la libéralisation du crack.
Ah oui, écoutez.
Un truc plus costaud.
Vous avez raison. Allons-y, franco, quoi. Pas de palier.
Même la coque, vous avez raison.
Voilà.
On peut même pas dire à consommer avec modération. Là, c'est à consommer pas du tout, d'accord.
Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère et dans votre apparence physique ?
Bien, écoutez, plein de choses, mais heureusement, il y a des maquilleuses de talent, comme Élodie, là. Merci, Élodie.
Et
on n'est pas couché, on est en direct, voilà. Donc, ils font ils réparent un peu le désastre, quoi.
C'est
donc,
vrai.
Ça passe.
Il n'y a rien à acheter, sinon.
On ne s'aime pas. Hein. J'aime pas me voir en radio.
Ah, c'est vrai, vous
ne regardez pas à nouveau.
J'aime pas m'écouter,
La
voix, machin et tout. Je dis, ça va pas.
C'est vrai.
Ouais.
Vous n'aimez pas vous réécouter, vous supportez pas votre voix.
Je réécoute pour progresser, pour dire. Mais ouais, non. J'aimerais bien avoir la voix de Gérard Darmon, une voix dans les graves, tu vois.
Ah ouais. Fumeur.
Et vous ne vous regardez pas non plus sur.
Je regarde pour voir ce que j'ai raté. Ouais. Je regarde toutes les semaines, du coup. Et pour progresser. Mais c'est à chaque fois douloureux de se voir.
Alors que nous, on prend un malin plaisir à regarder les replays du Buzz TV, ça. Hein,
c'est vrai.
Allez, une dernière question pour la route. Quelle est la chanson que vous écoutez en boucle?
La chanson que j'écoute en boucle, j'écoute en ce moment du Bob Sinclair parce que j'avais eu un super souvenir avec lui et le petit Luciano.
Ouais.
Il avait accueilli sur scène Luciano cet été. Il avait été extraordinaire humainement, au-delà de l'artiste. Il y avait 10 000 personnes. Il a lâché les platines pour faire la photo avec le gamin, etc. Donc, je salue l'homme et l'artiste. Voilà, je ressemble à David Guetta.
Oui, vous êtes...
C'est ça.
C'était quand vous étiez doublure de David Guetta.
Et je fais de la pub pour, David pour Bob Sinclair.
Voilà, voilà exactement. David Guetta qui écoute du Bob Sinclair. Ce sera le paradoxe de fin de cette interview. Merci beaucoup, Philippe Cavrivière, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que l'on vous retrouve chaque jour à 7h56 sur RTL dans la matinale, ainsi qu'en deuxième partie de soirée, le samedi, sur France 2. On est en direct et on soutient votre association Léo qui combat les cancers pédiatriques.
Magnifique, merci
à vous, Philippe Cavrivière. Merci Sarah. Et on se retrouve demain avec un nouveau Buzz TV. Cette fois-ci, nous allons recevoir un journaliste qui officie sur LCI, 24 heures Pujadas. L'invité est dans le nom de l'émission. Il va animer un débat sur les Républicains. Il s'agit de David Pujadas.
Il y aura
un peu moins de vannes, mais il a un vrai sens de l'humour, David Pujadas, je vous assure. Passez une excellente journée et à demain pour un nouveau Buzz TV.